Bonjour, vous écoutez Noir Atlantique, un podcast de Fania Noël produit par Kizu Studio. Dans Noir Atlantique, je suis en conversation avec des militants, artistes, universitaires ou intellectuels noirs et on parle de nous, des luttes, des cultures, des pensées et des mondes noirs. C'est la rentrée et nous sommes nombreuses et nombreux à prendre nos cartables et nos valises pour retourner sur les bancs de l'école, que ce soit la petite école ou la grande. Pour marquer le coup au programme d'aujourd'hui, guérilla intellectualisme, ou comme je le dis souvent, faire un doctorat, ce n'est pas du militantisme. En effet, l'exceptionnalisme n'est pas un projet politique, ni le fait de diversifier les institutions prestigieuses, car il nous faut toujours une boussole. Mais cette boussole, dans cet épisode, est particulière. Ce sera celle du militant, historien et homme politique guyanais Walter Ronet. Une boussole qui montre toujours la direction de la révolution. On va se pencher sur un de ses concepts, guérilla intellectualisme. Pour Walter Ronet, la mission du guérilla intellectualisme, redistribuer et subvertir le monopole universitaire de la production et distribution légitime du savoir, en le faisant sortir pour être critiqué, défié et mis au service des projets politiques de libération noire. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour cette discussion Rebecca A. Wilcox, qui est doctorante à l'université de Princeton Theological Seminary. Ses champs de recherche sont la religion et la société. Ses recherches utilisent les analyses autour de la théorie spectrale, de la négrophobie et des féminismes noirs afin d'explorer ce qui hante les économies souterraines aiguisées des épistémologies noires radicales. Rebecca est originaire du Bronx, New York, où elle a été élevée par sa mère et ses cinq frères et sœurs. Et c'est une fière ancienne élève d'une HBCU, Historical Black College and University, celle de l'Université de Clark d'Atlanta. Bonjour et bienvenue Rebecca, comment ça va?
Thank you, I'm really happy to be here.
Merci, je suis vraiment contente d'être là, merci de m'accueillir.
Yeah.
Je préfère prévenir maintenant, je ne suis pas une spécialiste de Walter Ronet du tout, mais je suis familière avec le contexte, avec l'ensemble de son travail sur la manière dont l'Europe a sous-développé l'Afrique. Donc j'espère pouvoir apporter quelque chose à cette conversation dans une certaine mesure.
En tout cas, je suis tellement contente parce que tu fais partie de ma five on Twitter, donc je suis vraiment super contente de t'avoir aujourd'hui. donc voilà, je voulais savoir. Alors, nous, on est toutes les deux doctorantes dans des institutions majoritairement blanches, oui, dans un contexte universitaire. Voilà, dans un contexte universitaire. Ou universitaire militant, c'est quelque chose qui existe, it's a thing. Moi, je suis à la New School et c'est carrément le slogan de l'université, scholarly activist, universitaire militant. Bref, comment toi, tu perçois ce double mouvement de à la fois dire que l'activisme est une activité au sein de l'université, mais aussi en faisant comme si ce que font les militants est complètement séparé de la production théorique et intellectuelle.
Well, I don't know that activists, I use that term loosely because it's been so appropriated.
Alors, les activistes, tu vois, j'utilise ce terme faute de mieux parce qu'il a été tellement détourné et accaparé de nos jours que je pense même pas qu'il soit encore utile. Mais je ne pense pas que la théorie ou la production de savoir intellectuel en elle-même soit directement en conflit avec l'activisme ou un certain type d'insurrection politique. Mais je suis d'accord que quelque chose est en train de se passer dans le milieu universitaire autour de ce statut d'universitaire militant. C'est presque comme si on ne sait plus vraiment ce que ça signifie, ni quelle fonction ça doit remplir. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le concept de guérilla intellectuelle de Walter Rodney qui veut mettre en avant dans sa propre insurrection radicale. Mais pour moi, je fais exprès de me présenter en tant qu'activiste parce que je suis universitaire à plein temps. Et je sais aussi que mon travail est une forme de production de savoir qui a pour but de façonner, pas nécessairement les mouvements sociaux, mais plutôt mon propre lien avec le monde qui m'entoure. Donc je ne travaille pas en ayant les autres en tête parce que je ne suis pas là pour l'utiliser. Et je pense que c'est un positionnement différent des autres parce que traditionnellement, le travail des universitaires a vocation à être repris et utilisé par l'institution. C'est notre métier. Et nos écrits, ce que nous produisons, aura beau être radical ou se fonder sur des concepts théoriques radicaux, ça restera toujours quelque chose qui vient alimenter l'académie, en fait. Et en plus de ça, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça signifie faire partie de l'université ou pas. Parce que pour moi, c'est très important d'indiquer sur mes profils que j'appartiens au monde universitaire. Pas parce que je pense que les universités historiquement noires sont des espaces de liberté, au contraire. Ce sont des exceptions qui confirment la règle. Mais c'est plutôt parce que je pense qu'il y a différents niveaux dans ce délire d'universitaire. Avec le community college, junior college, il y a tous ces types différents d'universités. Donc, au sein même du système académique, il y a différents types de production de savoir.
Ce point est assez important parce que justement, quand on essaye de dire, comme si l'université, c'était juste homogène, ça fait comme si, comme quand il y avait cette question de Harvard, c'est la même chose que Community College. Donc, comme s'il y avait des stars, les stars universitaires qui se posaient en question comme s'ils étaient tous les vacataires, ceux qui travaillent, qui font vivre l'université, qui n'ont pas de poste, qui n'ont pas de tenure. Et on essaye de faire, oh, on est tous dans le même sac, alors que certains, ils ont leur logement payé et que d'autres, ils sont juste en train de travailler pour quatre positions. C'était ma petite parenthèse de doctorante qui est à chaque fois en train de gratter pour trouver de l'argent pour aller en conférence. Fin de la parenthèse.
Non, I mean, that's a really important intervention because recently what we saw was like when 1619 Project, I can't think of her name right now, but when she was...
Non, c'est très important de parler de ça parce que récemment, on a vu quand le 1619 Project n'a pas eu de chair, son nom m'échappe. Il y a eu tout un tollé des universitaires libéraux, oh là là, comment est-ce que vous pouvez ne pas lui donner ce poste, elle est géniale, etc. Alors que le projet 1619 est un projet libéral. Et en même temps, des professeurs à Howard ont publié des lettres pour dire que, en fait, même si tu viens à Howard et tout, et qu'ils te donnent une titularisation pour capitaliser sur le fait que tu es connu, etc., ça ne veut pas dire qu'en même temps, il n'y a pas des professeurs noirs qui sont exploités à Howard pour des salaires de misère ou qui ne sont pas traités à leur juste valeur. Donc, il y a plusieurs facettes à ce problème. Et quand on parle de ces institutions comme Howard, qui ont des milliards de dollars de donations, on voit que ce sont ces types de professeurs stars qui monopolisent la parole. Et donc, s'il y a une insurrection radicale, elle ne viendra pas des universités les plus cotées, même s'il y a des initiatives radicales formidables qui sont menées par des professeurs tels que Dr. Joy James, qui va au Collège Williams, qui est une institution prestigieuse. Mais parce que son projet est tellement attaché à respecter une forme de radicalité, vous ne la verrez pas citée dans la plupart des bibliographies. Son travail ne sera pas enseigné comme apportant quelque chose de plus à la science. Je veux dire, elle est littéralement une théoricienne politique qui analyse Foucault, mais ils préféreront citer Foucault directement.
C'est vraiment important parce que le pessimisme, c'est le nouveau truc qui n'est pas important, mais c'est tellement pas important qu'il passe du temps à dire que ce n'est pas important. Donc, à un moment, il faut choisir. Et je voulais répondre à ce que tu dis comme... je suis encore, avant de rejoindre le monde universitaire militante. En fait, sur ce que tu dis, j'ai vraiment... En fait, j'ai du mal, et je pense que c'est une résistance à la réalité que j'ai, sur comment, à l'intérieur de l'université, plein d'activités sont définies comme militantes, de la même façon que plein de choses sont définies comme critical race theory, alors que ce n'est pas critical race theory, comme si tout devait être critical race theory. Ben, en fait, beaucoup d'activités sont définies comme militantes, comme si c'était le truc qui faisait un peu sérieux, mais un peu hype. Alors, quand, à l'exception du travail qui est fait dans les syndicats, au sein de l'université, pour améliorer les conditions de travail du prolétariat intellectuel, j'arrive pas à voir ce que c'est l'activité de scholarly activist. J'arrive pas à voir que c'est quoi. J'arrive pas à voir. Est-ce que toi, tu arrives à identifier, entrevoir ce que c'est scholarly activist, ou encore plus loin, ce que c'est du guerrier intellectualisme au sein de l'université, quel que soit community college ou des Ivy ou des institutions qui pensent avoir le monopole de la pensée légitime.
Some type of insurgency or insurrection, which is the only type of activism I'm concerned with, that's not going to come from
C'est un
academia.
type d'insurrection, de révolution, qui est le seul type d'activisme qui m'intéresse. Ça viendra pas de l'institution universitaire. Et ce qu'on va voir, c'est que ça viendra toujours des étudiants, ça sera toujours des militants étudiants qui vont questionner leur département, questionner où vont les fonds, l'administration de l'université, etc. La dynamique viendra toujours du corps étudiant. C'est intéressant que tu parles de l'afro-pessimisme, parce que l'afro-féminisme est arrivé et a dit à tout le monde, en fait, vous ne servez à rien. Toutes vos théories sont genre insuffisantes, parce que vous n'analysez pas suffisamment la négrophobie. Donc, ils ont débarqué et ils ont tout chamboulé. Et je veux pas faire genre l'afro-pessimisme est radical en soi, pas parce que je pense que ça n'offre pas de langage politique, mais plus parce que pour moi, son but n'est pas de radicaliser les gens, mais plutôt de nous donner une grammaire de la souffrance, ce qui est très différent du processus de radicalisation. Je pense pas que l'afroféminisme soit un discours qui encourage les universitaires à se mobiliser. Et je vais être très claire sur ses intentions, parce que par contre, à cause de l'analyse qu'il nous offre, je pense que ce qui est en train de se passer dans le monde académique, c'est la déstabilisation organisée du discours politique. Je veux dire, on a des départements qui demandent à leurs étudiants de master de changer leurs auteurs, leur méthodologie, penser à l'afro-pessimisme, ce qui est intéressant parce que quand on parle de l'académie libérale, tu as aussi mentionné Marx, et les gens pensent que les afro-pessimistes s'adressent aux libéraux, mais non. Nous avons atteint un consensus par le marxisme et la tradition radicale noire qui dit que le libéralisme est insuffisant et ne déstabilise pas le gouvernement. On n'a pas à revenir sur ce travail fait par les marxistes et les féministes. Mais maintenant, on doit se tourner vers la rébellion politique radicale qui est considérée comme la traduction des radicaux noirs, des marxistes et des féministes noirs. Et c'est à ces personnes que l'afroféminisme s'adresse concernant leur analyse de l'oppression, de la colonisation et de l'esclavage qui ont été insuffisantes au nom de l'économie politique, le genre, l'intersectionnalité et la théorie critique de la race. Pour moi, même les meilleurs intellectuels, que ce soit Walter Rodney, tout le monde pense à Cedric Robinson, l'auteur de Marxisme noir, le meilleur de la littérature qu'on a sur cette rébellion radicale continue d'être préoccupé par la substantiation de l'État-nation avec la souveraineté africaine. Et donc, tu as l'afro-pessimisme qui vient dire, les gars, en fait, c'est peut-être la souveraineté et l'État-nation qui posent problème. Et on ne peut pas se mobiliser pour la souveraineté africaine, alors qu'à la fin, on se rend compte que pour qu'il y ait souveraineté, il faut qu'il y ait des esclaves. Et même pour les Africains et ce que ça veut dire d'être dans la catégorie africain, elle est fondée sur une notion de souveraineté qui parasite en fait la notion de noir ou de négritude. Et donc cette manière de dire la vérité est rare dans les discours académiques. Et c'est ce qui m'a initialement attiré à l'afro-pessimisme. Mais c'est aussi la chose qui est constamment utilisée comme attaque dans l'académie et qui prouve que l'université n'est pas un milieu pour l'insurrection radicale ni pour dire des vérités. C'est un lieu d'hégémonie. Et le discours dominant est que le but est d'avoir la libération sur certaines conditions, comme garder l'Amérique intacte, réformer l'Amérique, ce genre de choses. Le discours académique est pour la réforme de l'État-nation, la réforme de ceux qui ont l'hégémonie ou la réforme des prisons. Et comme ça, on n'a pas à créer un type de révolution contre ces institutions de pouvoir et ces idéologies du pouvoir. Pour dire les choses simplement, si l'académie ne peut pas faire la guerre idéologique, alors l'académie est fondamentalement investie dans la déstabilisation des radicalismes. Et je pense que c'est vraiment ça. Joy James a une citation où elle dit « Quand tu fais la guerre idéologique, c'est-à-dire quand tu essaies de galvaniser le peuple autour de certaines idéologies politiques qui ne sont pas juste basées sur l'hégémonie académique et intellectuelle, tu te retrouves en train d'être sanctionné mais pas considéré. Ils ne vont pas critiquer tes raisonnements, mais ils vont te sanctionner. Et c'est ce qui se passe quand on voit certaines idées radicales, rebelles, apparaître dans l'académie. Tu vas voir plein d'intellectuels faire des sorties pour les déstabiliser, parce que ce sont des idées qui fondamentalement déconstruisent les mêmes catégories sur lesquelles l'ensemble des travaux des autres repose. Et c'est pour ça que je dis que tu n'auras aucun radicalisme au sein de l'université, parce que l'hégémonie libérale de l'université est fondamentalement engagée dans la déstabilisation du radicalisme. Et je pense que les étudiants sont ceux qui s'emparent de l'afro-pessimisme et en font plein de différentes choses avec. Je pense aussi que le meilleur de ce qu'on a comme littérature académique de la tradition radicale noire et de l'afro-pessimisme sont fondamentalement déstabilisés par les universitaires.
The concept of black-brown relations having derived from the initial black-white controversy is one of the lines of analysis. The second is that class struggle was indeed the principal motive force of Guyanese as of Caribbean history, but at the same time that racism is responsible for important intra-class conflict, which is a topic that perhaps both historically and abstractly is not dealt with sufficiently. Intra-class conflict within different classes, within different strata, were in fact based on a real or imagined conflict of races. And thirdly, one of the consequences of assessing our history in Guyana is to come to the conclusion that at any given stage, the existence of racism as an aspect of consciousness, as an aspect of ideology, and the existence of racism as a facet in the structure of production relations is always guaranteed and promoted by a class outside of the working class. That the genesis and the determination of racism in the society is to be located outside of the working people themselves. And these are points that I would hope to elaborate on, and in the process to bring you up to date with a sort of race-class structure that has emerged in our particular part of the world.
Ça fait beaucoup de sens. Donc, en fait, si on essaye de bien comprendre ce que tu dis, l'horizon du guerrier intellectualisme à l'intérieur de l'université, ça ne va pas être l'université qui va être à l'avant-garde des luttes et qui va être une force révolutionnaire. Mais comment, d'après toi, on peut dans ce travail de décarcéralisation, c'est-à-dire de enlever, enfin de d'essayer de libérer les savoirs, les ressources qui sont enfermées à l'intérieur de ces institutions universitaires, libérales, pour les sortir, surtout dans la situation où on a un pied vraiment, c'est-à-dire scholarly activism, c'est-à-dire que universitaire militant, on a vraiment un pied dans le monde universitaire et un pied à l'intérieur des communautés, des mouvements politiques, etc. Donc, comment on fait pour aller vers la décarcéralisation? Parce que quand on espère, après la révolution et une révolution contre l'ordre symbolique, l'université sera aussi obsolète. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait?
Yeah. Alors, je pense que c'est une question très intéressante. Ce qu'on dirait, corrige-moi si je me trompe, qu'au cœur de la question, il reste cette détermination de révolutionner ou mobiliser ou organiser.
Yeah, en fait, je ne sais pas s'il y a... En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Je pense que le présupposé, c'est que pour ceux qui ont cette conviction et, et cet attachement à l'idée que on ne va pas juste dans l'université pour rester dans l'université et penser qu'on a l'avant-garde de lutte. Donc, pour ce petit démographique, etc., qui essaye, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre concret et pas seulement engagé dans les batailles internes de faculty meeting et la cuisine interne de l'université? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la conversation ne soit pas juste la guerre des places qu'on a au sein de l'université pour le tenure track, mais quelque chose qui profite collectivement à la libération noire, aux enjeux, aux mobilisations, aux luttes quotidiennes et concrètes.
So, I want to start with saying,
alors,
reiterating
je vais commencer
what I
par répéter
earlier.
Ce que j'ai dit précédemment, qui est que tu dois comprendre que fondamentalement, ton rôle dans l'université, c'est d'être là pour être utilisé, exploité. Tu vas produire quoi que ce soit que l'institution qui te paye te dit de produire. Quand tu es un travailleur salarié, il y a certaines conditions que tu dois remplir pour être payé et subvenir à tes besoins, mais aussi des conditions d'engagement envers cette institution. Donc, si tu fais le choix d'être engagé envers l'institution, alors tu t'es déjà retiré de toute rébellion politique. Et je suis claire là-dessus.
Pas ces gens sont clairs. Ils pensent que l'université est en dehors. Ils ne sont pas des travailleurs. Ils ne pensent pas qu'ils sont des travailleurs dans les rapports de classe et de travail et de production.
La relation exacte serait celle d'un outil de production. Donc, bon, pour jouer carte sur table, je dirais que à cause de mes engagements politiques, on en a parlé, hein, une forme de rébellion, je dirais que ma position dans l'académie, fondamentalement, c'est celle d'un voleur. Et fondamentalement, je suis engagée à extraire les ressources de ce milieu. Donc, si tu es dans des espaces d'organisation politique et tu fais de l'éducation politique, tu sais que les archives auxquelles nous on a accès sont juste largement au-dessus. Et donc, moi, je suis complètement là pour prendre les fichiers PDF et prendre les ressources que l'université nous accorde. Enfin, il y a beaucoup de choses que je peux pas dire ici sur ce que je fais vraiment. Mais tout ça pour dire que tu dois avoir un rôle d'extraire de l'université parce que c'est une censure qui va te sucer jusqu'à la moelle pour sa propre satisfaction. Et donc, si tu dois être là et supporter d'être l'hôte de ce parasite, je dis pas que c'est forcément consenti, mais c'est la manière dont les choses fonctionnent. Eh bien, dans ce cas, je pense que beaucoup d'universitaires doivent se positionner comme des gens qui vont puiser dans les ressources de l'académie. Parfois, ça requiert effectivement de se rebeller d'une certaine manière ou de ne pas respecter le code de conduite. Parfois, c'est le fait de donner ton mot de passe au public pour accéder à certains documents. Mais je pense aussi que de l'autre côté, c'est que tu es seulement là pour produire. Et je suis très sérieuse sur ma gestion du temps. Je ne traîne pas. Je n'ai pas aux événements.
C'est pour ça, Rebecca, c'est ça le problème. Après, ils disent qu'on est associable. Qu'on est associable parce qu'ils voient qu'on vit notre vie sur Instagram. Et fait, tu ne viens jamais aux événements. C'est ça notre problème. C'est ça qu'on nous reproche.
Ouais, peut-être que je suis associable, mais ce qui m'importe plus, c'est que je gagne au change. Donc, il n'y a pas une table ronde où tu vas oser m'inviter sans que ça m'apporte un avantage politique pour ma cause. Donc, je ne vais jamais m'asseoir à la table à me demander comment créer un meilleur séminaire de conférence. Donc, le jour où le peuple sur le terrain décide qu'on doit brûler le séminaire, bah, je vais les aider. Ce qui veut dire que j'abandonnerai ma relation à l'université, je couperai mon filet de sécurité. Si c'est ça qui me nourrit, bah je mangerai pas. Ou je trouverai une autre manière de me nourrir. Et aussi, bon, pour être transparent, c'est pas ma seule source de revenus.
L'université, c'est pas le moyen le plus sûr pour gagner sa vie. Donc, c'est pas comme si, enfin, financièrement, c'est pas comme si c'était le secteur où on était, où il y avait le plus à perdre financièrement après tout. Donc, just say.
That's what's so weird when people are always like academics, elitists. It's like, do you know how much we make? Especially as graduates.
C'est toujours bizarre quand les gens parlent des universitaires. Genre, vous savez combien on gagne? On n'est pas du tout riche. Donc, bon. La réponse la plus simple à cette question est de faire toujours en sorte d'être visiblement en contradiction pour ce qui est de ne pas socialiser, etc., au sein de l'université. Il y a quelque chose qui m'arrive souvent sur Twitter. Et donc, on va être sur Twitter tranquille, discuter. Et il y a des gens qui vont me proposer de m'envoyer de l'argent sur Venmo ou Cash App. Parce que j'ai offert beaucoup à la conversation. Et je refuse parce que je ne veux pas manger sur le dos du peuple. Je pense que si tu es dans l'université et que tu as accès à du temps pour faire de la recherche, étudier, et le temps d'avoir de la réflexion critique sur les idées qui te tiennent à cœur, je pense que c'est quelque chose qui devrait être offert aux personnes qui ne sont pas avec toi en cours. Tu as déjà des étudiants qui sont prêts à payer l'inscription, venir en cours, s'endetter pour étudier avec toi. Je pense pas que le grand public devrait payer pour accéder au savoir qu'on partage gratuitement sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on réalise pas, c'est que quand on est sur Twitter et les gens interagissent avec nous, ça nous aide aussi dans nos projets. Ça nous aide à penser de manière critique et les gens pensent qu'ils te payent pour ton travail. Mais je pense que c'est différent pour les panels et contribuer à une revue académique, etc. Eux, ils doivent te payer. Les institutions doivent nous payer pour notre travail. Mais j'ai un rapport différent à ça. Et c'est pas une revendication universelle, mais à moins que je publie un appel à l'aide parce que j'ai besoin spécifiquement pour quelque chose et cet appel sera vers une communauté de militants avec qui je suis engagée, eh bien, je compte pas accepter des Venmo et des Cash App pour des tweets pour lesquels j'ai eu le temps de réfléchir et analyser de manière critique, d'une manière qui, effectivement, est propre à moi. Mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas faire de la théorie. Et c'est un autre aspect de ça. Les universitaires n'ont pas le monopole de la pensée critique théorique.
Pape Ndiaye, je le rappelais, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes historien et votre ministre de tutelle, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a dénoncé il y a quelques jours maintenant l'islamo-gauchisme qui gangrènerait selon elle l'université. Elle voudrait faire un état des lieux des recherches qui sont menées en France et notamment celles sur le post-colonialisme. Est-ce que vous vous êtes senti directement visé ?
Non, même si je m'intéresse de très près à ces recherches dites post-coloniales. Qu'est-ce qu'on entend par recherche post-coloniale ? Eh bien, on entend des recherches qui essaient de regarder ce qui, dans la société française contemporaine, est héritier de l'époque coloniale. On regarde des formes de continuité, en quelque sorte, sans préjuger que nous serions entièrement détachés de cette période. Et puis, on s'intéresse aussi à des sources. Par exemple, les historiens s'intéressent à des sources qui sont des sources discrètes. Ce sont les murmures, en quelque sorte, de l'histoire qui proviennent de celles et ceux qui n'ont pas eu la parole, des dominés, en quelque sorte, par opposition aux voix fortes de ceux qui ont produit les archives. Et donc, c'est un courant extrêmement varié, avec des disciplines, avec des approches et avec des débats qui sont très, très vifs.
Moi, je crois beaucoup au fait que la solidarité, ça se construit avec des personnes à qui on partage une vision, au moins pas toute la vision, mais une vision politique commune et une communauté commune. Donc, c'est pour ça, par exemple, que je suis allée en doctorat, c'est pour m'acheter du temps. Parce qu'avant, je faisais du militantisme, 25 à 35, 40 heures, avec tout ce que ça veut dire, les attaques médiatiques, le fait de ne pas pouvoir trouver du travail qui n'était pas top, etc. Et ensuite, j'ai quitté la France, donc j'ai fait du militantisme en même temps, mais c'est-à-dire travailler en parallèle. Et là, rentrer dans le monde universitaire, ça m'achète du temps. Donc là, j'ai 4 ans et demi, 5 ans pour avoir du temps. Et ce que j'essaye de faire, c'est de suivre la ligne du projet politique de l'organisation qui est plus centrale, le afroféministe, c'est-à-dire que, par exemple, tous les papiers que j'écris pour l'université tournent autour de ça, tout ce que je produis est dupliqué, c'est-à-dire que j'écris un papier, il est dupliqué pour une formation d'une organisation politique. C'est-à-dire il est dupliqué pour une formation d'une organisation politique. Je continue à faire ça, à extraire, mais c'est pas moi qui me brûle moi-même à essayer de have it all. Donc je pense que ça c'est une stratégie que les personnes qui rentrent dans l'université doivent essayer de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un double travail. Mais faire en sorte que le travail qu'on fait dans l'université, ce n'est pas où ils essayent de nous emmener. Parce que parfois, ils essayent de nous emmener sur leur propre sujet. Bon, là, on va parler d'épistémologie, machin, etc., qui n'est pas l'épistémologie dans laquelle on croit. Ils essayent de nous emmener sur leur propre terrain, mais d'avoir une ligne et dire non, je vais rester sur ce terrain-là parce que ce terrain-là, ça me permet aussi de produire de la théorie, de la réflexion qui peut être utile en dehors de l'université, à des mouvements politiques et ça demande des résistances.
Yes, I think people often forget that it's a job, right? So it's like as organizing.
Oui, je pense que les gens oublient souvent que c'est du travail. Et de la même manière que les activistes sont entraînés dans le complexe industriel des ONG, ils sont aussi entraînés dans l'université et donc c'est un truc très carcéral, comme tu disais précédemment. On dirait la prison. Il y a un pipeline prison-militantisme dans les différentes manières dont la carcéralité détourne la production de savoir pour la consommation de non seulement l'Académie mondiale, mais aussi le capitalisme mondial. Donc je voulais affirmer ces sentiments juste pour pouvoir dire que je pense que ce qu'on fait dans l'Académie ou ailleurs dans son travail, ça reste le tien. Et que ça soit dans l'académie ou ailleurs, tu restes vrai dans le travail que tu produis. Enfin, j'espère que tu n'es pas en train de mentir à propos de ce que tu dis. Et pour moi, c'est important parce que dans la mesure où l'université n'a pas le monopole du discours politique et le terrain non plus, on mobilise et on organise des conceptions révolutionnaires de nos idéologies et des idéologies qui œuvrent pour les gens qui sont prêts à les défendre. Je voulais juste clarifier ça pour dire que je comprends qu'être dans l'université est une position différente en termes de rapport de classe et le temps qu'on a pour vivre nos propres vies et produire notre travail. Et c'est un travail qui nous tient à cœur. C'est pas le même genre de travail que dans les usines ou les fast-food, mais c'est du travail pour lequel non seulement on est sous-payé en tant qu'étudiant du troisième cycle, mais aussi, voilà, pour faire cette distinction, mais aussi c'est nécessaire en termes de comment on maintient notre équilibre mental pour naviguer ce monde. Enfin, très clairement, je ne vais pas me tuer pour que les autres soient libres, soyons très clairs.
Et Rebecca, je voulais savoir si tu avais un livre, une série ou un film à nous suggérer.
Un livre, je n'aime pas vraiment lire, je ne suis pas une grande lectrice.
Attends, est-ce que tu as écrit ça dans ton statement of academic purpose que tu n'aimes pas, pas lire?
Non, j'ai rien dit, mais on n'imagine pas forcément. Mais je lis seulement ce que j'ai besoin de lire pour prouver mon point de vue. Mais je ne lis pas vraiment pour le plaisir, ça n'a jamais été mon truc. Et je pense que c'est aussi un truc de classe. Je suis du Bronx, des quartiers. Je ne dis pas que les Noirs des quartiers ne lisent pas, j'ai juste qu'on a d'autres préoccupations, quoi. Donc, si, je vais juste dire ça. Si je dois lire, j'aime surtout la littérature. J'aime beaucoup la fiction. En ce moment, je commence Corée Ghidorah de Gayle Jones. Mais j'ai un peu peur de ce livre parce que tout le monde m'a dit qu'il fait peur. Pour ce qui est des séries télé, avec ma personne, on a enfilé pas mal de choses ces derniers mois. Mais en ce moment, on refait un marathon Harry Potter. Et c'est juste que j'ai un truc avec les sorciers en ce moment.
Je peux pas. J'ai trop de fans d'Harry Potter dans ma vie. Ouais. J'ai trop de fans d'Harry Potter dans ma vie. Il m'absorbe.
Ouais, j'essaie d'avoir la personnalité de sorcier où je lance des sorts sur la négrophobie.
J'étais pas prête. Je n'étais pas prête pour. Ok. Donc je ne vais jamais échapper à ça. Ok. Farah, si t'écoutes cet épisode, il y en a marre. Merci Rebecca, c'était un plaisir de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Merci à Joe qui a assuré l'interprétation du français vers l'anglais de ce podcast, pour vous qui l'écoutez en anglais, et à Patricia qui a assuré l'interprétation de ce podcast de l'anglais vers le français, pour vous qui l'écoutez en français. C'était Noir Atlantique, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Fania_Noël, ou Twitter, Fania Makaya. Kizu Studio est un projet militant et bénévole. Vous pouvez le soutenir sur kizustudio.org ou proposer vos idées de podcast. Je vous retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous faire vacciner.